Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
20h10, le numérique et politique. Le débat de ce soir est consacré à la proposition de loi en discussion à l'Assemblée nationale. Faut-il interdire le téléphone portable à l'école? Et si oui, comment? Romain Pigenel, ancien conseiller du président François Hollande, cofondateur de Futur.io, et Elliot Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG Le Mouvement.ONG, sont là pour en débattre avec nous. Faut-il interdire les smartphones et les téléphones portables dans les établissements, j'y arrive, scolaires? Ce jeudi, une proposition de loi sera examinée à l'Assemblée nationale pour faire interdire justement ces téléphones portables à l'école. Depuis 2010 déjà, le code de l'éducation interdit leur utilisation sur le temps scolaire. Faut-il interdire les téléphones portables dans les établissements? Cette interdiction doit-elle passer par une loi comme celle qui arrive en discussion à l'Assemblée nationale? Et si oui, comment faire? On commence par vous, Romain Pigenel.
Merci pour ce privilège. Déjà, pour prendre un tout petit peu de recul, d'où ça vient et où ça va, je pense qu'il y a trois questions à laquelle il faut répondre et dont cette interdiction et à laquelle cette interdiction tente de répondre. C'est d'abord le paradigme nouveau qu'on connaît tous, qui est celui alors de l'économie de l'attention, la sursollicitation attentionnelle, etc. Je ne vais pas en faire des tonnes, nos auditeurs connaissent ça par cœur, c'est comment on est de plus en plus dans une sursollicitation, une dilapidation de capital attentionnel, et on la sent, nous, en tant qu'adultes, et on peut imaginer que sur des ados, des gamins en formation, elle est évidemment plus forte, et à vrai dire, comme c'est des phénomènes récents, on ne sait pas encore, je dirais, quel impact ça aura sur le temps moyen et le temps long, sur le type d'individu, de cerveau que ça va former. Il y a un deuxième sujet, qui est celui des appareils qui portent cette révolution, et on sait que c'est en grande partie, de manière importante, le mobile, parce que c'est par le mobile, justement, que les technologies informationnelles, le web, ont cette capacité d'être tout le temps sur nous et sur sollicité. Et quand on dit le mobile, c'est pas suffisant, parce qu'en France, le mobile, c'est quoi? C'est à 90% Apple ou Android, et sur ces 90%-là, c'est très majoritairement Android et donc Google. Donc c'est aussi la question de savoir à partir de quand on veut laisser, y compris des jeunes en formation, être sous, je dirais, l'emprise finalement d'un système d'exploitation qui après va imposer des façons de penser, des façons de se rapporter à la technologie. Puis un troisième sujet qui est celui de comment est-ce qu'on arrive à passer finalement du statut de consommateur passif de ces technologies-là à celui d'utilisateur averti. Et moi ce que je vois, alors j'enseigne pas dans le secondaire, mais dans le supérieur, et c'est des étudiants dans le supérieur qui, y compris, peuvent être très habiles à manier le digital, ils ont souvent une mauvaise compréhension des tenants aboutissants derrière, que ça soit comment ça fonctionne technologiquement, les problématiques d'algorithmes, et évidemment tout ce qu'il y a comme impact économique et social derrière. Donc il y a, à mon avis, en tout cas, un sujet à traiter. Après, la question, c'est de savoir comment, loi, oui ou non, voilà.
Elliot Lepers, sur ce sujet, je précise juste que, selon les données dont on dispose, 93% des 12-17 ans, puisque c'est de eux qu'il s'agit, ont un téléphone mobile aujourd'hui.
Moi, je pense que cette loi, elle prend un peu le problème à l'envers, parce que effectivement, l'interdiction, elle existe déjà depuis 2010. Donc voilà, ça inverse un peu la problématique, puisque ça permet aux établissements de décider d'exclure des lieux de l'établissement de cette interdiction. Mais surtout, c'est une réponse qui est une réponse autoritaire, un peu bête et méchante, à un problème qui est pour moi beaucoup plus large et que le gouvernement ne traite pas aujourd'hui. L'argument qui nous est brandi, c'est celui du cyberharcèlement, qui est un fléau dans les collèges.
Et qui se passe souvent le week-end ou le soir.
Et voilà, cette interdiction sur le temps de travail à l'école. Elle ne permettra pas d'endiguer le problème du cyberharcèlement. Et c'est pour moi ça qu'il faut questionner. C'est plutôt que de questionner l'outil, l'objet, il faut s'interroger sur les usages, tout simplement. Savoir comment est-ce qu'on éduque, comment est-ce qu'on forme ces jeunes qui, de plus en plus jeunes, ont accès à des contenus qui ne sont pas de leur âge, évidemment sur la pornographie, et puis qui, derrière, emploient des usages qui sont nocifs, qui sont néfastes, et qui, aujourd'hui, sont un vrai problème de société. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive, plutôt que de simplement interdire le portable, d'abord, effectivement, à créer les enjeux pédagogiques, parce qu'il faut apprendre à utiliser ces appareils. Et puis, c'est aussi comment est-ce qu'on éduque à l'égalité. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que ça devrait se jouer. C'est un engagement d'Emmanuel Macron d'éduquer à l'égalité à partir de la maternelle. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va se faire. Et avec cet argument d'interdiction un peu d'autorité, on a l'impression d'une réponse un peu réactionnaire qui fait plaisir aux mêmes personnes qui se sont opposées à l'éducation à l'égalité à l'école. Donc, c'est là-dessus que le paradoxe m'inquiète.
Alors, il y a aussi un paradoxe et une contradiction qu'on vit tous. Un exemple, mais mais j'ai fait une conférence il y a quelques jours dans un lycée, et ceux qui utilisaient le téléphone pendant ma conférence, c'était les professeurs et le proviseur, non pas les élèves. Donc, comme quoi, tout le monde utilisait le portable et pas simplement les élèves. Deuxième chose, les parents eux-mêmes ont un discours contradictoire. Ils ne veulent pas que leur enfant soit sur le smartphone pendant les cours, mais ils sont les premiers à refuser qu'on enlève les portables de leurs enfants, des mains de leurs enfants, parce qu'ils l'ont acheté pour des raisons, disent-ils, de sécurité, pour savoir quand l'enfant, si tout va bien, et quand l'enfant va sortir à l'école, si un prof est absent, par exemple, est-ce qu'il va falloir venir les chercher plus tôt, ou des choses comme ça. Et donc les parents tiennent absolument à ce que leurs enfants aient un téléphone portable à l'école. Donc on voit bien qu'on a tous beaucoup de contradictions sur ces sujets, Romain Pégenel.
Et pour autant, moi, après avoir beaucoup réfléchi et aussi, y compris en préparant cette émission, je pense quand même que ce n'est pas totalement une mauvaise chose d'aller dans le sens du contrôle par la loi. Je pense qu'il y a deux libertés à protéger. Il y a d'abord la liberté, je dirais, des gamins, des jeunes, par rapport au portable, parce que la discussion même qu'on a là montre qu'aujourd'hui, on est quand même dans un état un peu de dépendance, de surutilisation de ces technologies-là. Et moi, je le répète que c'est important, ce n'est pas les technologies qui sont neutres. Elles sont aujourd'hui principalement dominées par quelques acteurs, et donc elles ont un effet, après, des effets de long terme sur la façon dont on utilise Internet, les plateformes qu'on va utiliser, etc. Donc, d'abord, il faut aider les enfants à s'émanciper. Donc, moi, ça ne me choque pas de ce point de vue-là qu'il y ait un espace qui soit un peu protégé, un peu sanctuarisé, tant que ça ne devient pas le fait d'ignorer totalement l'existence du portable. Et là, moi, je partage totalement ce que dit Elliot. Il faut effectivement qu'il y ait beaucoup plus d'enseignement au numérique. Il ne faut pas que ça soit. On entend souvent, on dit, il faut d'enseignement au numérique, ça n'avance pas tant que ça. Mais il faudrait justement qu'il y ait à la fois des cours spécifiques là-dessus et que, de manière transverse, on introduise en littérature, en économie, cet aspect-là. Donc, d'abord, protéger quand même les enfants et les aider, même parfois malgré eux, à déconnecter. Et puis aussi, protéger la liberté pédagogique des profs. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord, effectivement, leur permettre, mais je crois que la loi le fait, de pouvoir introduire le portable dans le cours s'ils le souhaitent.
Oui, parce que c'est souvent le cas aujourd'hui. Voilà. Les profs discutent avec leurs élèves sur Facebook. On donne des travaux qui doivent être faits, modifier une page Wikipédia ou tout un tas de choses comme ça. Donc, c'est paradoxal, là encore.
Mais aussi, alors, à contrario, la liberté pour les enseignants qui ne sont pas à l'aise avec ça ou qui ne savent pas comment faire ou qui ont affaire à des classes. Moi, j'en connais un peu dans l'environnement familial, qui sont des classes difficiles, où j'ai des problèmes de perturbation par rapport à l'attention, etc. De dire, bah non, là, c'est un espace protégé, on peut faire sans. Et par ailleurs, il ne faut pas être dans l'espèce d'obsession du smartphone. On peut travailler sur le numérique, et expliquer le numérique sans forcément que ça passe par le téléphone portable, qui reste quand même, quand on est un peu enseignant, on le voit, un outil aussi de distraction. Moi, si j'avais l'âge des enfants, d'en parler.
Prof est ennuyeux,
voilà, on va sur le téléphone. Donc, voilà, je pense que c'est quand même bien un moment de remettre des bornes. Après, il faut faire en sorte que la loi soit applicable.
Comment on fait concrètement, parce qu'il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on l'interdit complètement? Est-ce qu'on l'interdit? Et par exemple, il y avait la question d'installer des casiers pour sécuriser les téléphones à l'entrée des établissements, où les enfants poseraient leur portable dans ces casiers. Mais avec la difficulté, c'est que d'abord, un collège, par exemple, de 800 élèves, ça veut dire 800 casiers, c'est compliqué, il faut des clés. En plus, c'est évidemment très facile d'aller casser ces boîtiers et de voler les téléphones. Donc, il y a un gros problème qui surgit. Il y a l'histoire des brouilleurs dans les établissements scolaires, qui était une idée aussi. Mettre un brouilleur dans un collège du 17e ou d'arrondissement de Paris, c'est brouiller peut-être une partie du quartier autour, donc autre problème. Et puis, il y a la question aussi de la manière dont on peut laisser les élèves avoir leur portable, mais les obliger de les garder dans leur cartable ou dans leur sac. Comment vous voyez la solution, Edouard Lepers?
En 2012, il y avait la question avait été posée à Vincent Peillon à l'époque, qui était ministre de l'Éducation nationale. Et il y a un article du Code des postes et des communications qui interdit l'implantation des brouilleurs. Donc c'était la réponse à l'époque de la rue de Grenelle. Effectivement, aujourd'hui, légalement, c'est compliqué d'installer un brouilleur dans une école. Et puis, évidemment, la question qu'abordait tout à l'heure Romain, qui est de dire...
Mais sur ce sujet, il suffit, la loi, et pour ça, on peut changer la loi. Enfin, oui. C'est justement un débat à l'Assemblée nationale,
bien sûr,
peut le permettre.
C'est aussi une question philosophique de considérer est-ce qu'on peut, sur un temps scolaire qui est un temps important, c'est 30-35 heures par semaine, est-ce qu'on peut effectivement empêcher techniquement, physiquement, l'accès à Internet, l'accès à la communication externe de l'établissement. Ça pose des questions aussi philosophiques, tout simplement, dans un monde...
Les profs eux-mêmes ne pourront plus l'utiliser, etc.
Mais dans un monde aussi où on a accès à Internet en permanence sur notre lieu de travail quand c'est le cas. Donc, voilà, la question, effectivement, du brouillage, elle est compliquée. Et c'est aujourd'hui ce qui est le plus problématique, et c'est pour ça que cette loi intervient, c'est que effectivement, l'interdiction, elle n'est pas appliquée dans les lycées parce qu'il n'y a pas de solution idéale.
Miracle,
ouais.
Je crois qu'il faut être simple, effectivement, l'histoire des casiers, elle semble totalement délirante. Moi, le brouillage, pareil, enfin, on imagine tout ce que ça peut entraîner comme problème. Et par ailleurs, je pense que ça ne change pas le problème de fond, enfin, moi, auquel je tiens aussi en tant qu'enseignant, c'est la capacité à se déconnecter. Le problème, ce n'est pas juste d'avoir un téléphone qu'on ne pourra pas utiliser, c'est de se dire, à un moment, on n'est pas forcé d'avoir toujours le nez sur 2, 3, 4 écrans et on peut se consacrer sur le cours. Et quand il y a un cours où on parle de digital, on a besoin, on est en capacité d'y retourner. Moi, je pense qu'il faut simplement arriver à mettre dans la tête des jeunes l'idée que par défaut, justement, c'est pas quelque chose qui est automatique, comme les antibiotiques, pour reprendre la formule bien connue. C'est pour ça que la loi me semble intéressante. En inversant un peu le paradigme, puisqu'on l'a dit dans la version précédente qui avait dans le code de l'éducation, c'était s'interdit en classe, mais après il faut réglementer établissement par établissement, est-ce que c'est autorisé ou non dans les couloirs, dans la cour. Là au moins, ça me semble avoir.
La récréation, les toilettes, certains mettent même des gardiens devant les toilettes pour pas qu'ils utilisent des téléphones portables dans les toilettes, ce qui est un peu absurde, parce qu'à un moment, c'est un autre endroit.
Mais là, ce qu'on peut se dire avec cette loi qui est finalement, alors, basiquement simple, et de ce point de vue-là, elle était un peu caricaturale, c'est qu'elle au moins elle inverse le paradigme, et on peut penser qu'avec le temps, si elle s'installe ça, elle mettra dans l'idée que, à l'école, on a plutôt tendance à ranger le téléphone dans le cartable, justement. Et après, c'est plutôt à titre exceptionnel qu'on le sort quand on a le temps, quand on a l'envie, etc.
Éliott Lepers, et puis il faudrait peut-être aussi voir, c'est quoi le périmètre de cette loi? Est-ce qu'on le sait? Parce qu'on avait tendance à dire que c'était pour le collège, ça veut dire qu'au lycée, on pourrait utiliser son portable. On ne sait pas trop où le débat va aller aussi. Parce qu'évidemment, il y a des questions d'âge. Il est interdit au moins de 13 ans de s'inscrire sur les réseaux sociaux, hein, par exemple. Et en France, la majorité numérique est désormais fixée à 15 ans. C'est-à-dire qu'entre 13 et 15 ans, l'accord parental est nécessaire pour s'inscrire sur un réseau social. Au-delà de 15 ans, c'est évidemment beaucoup plus facile.
Oui, d'ailleurs, on a vu que Twitter a commencé à supprimer tous les comptes d'utilisateurs en France qui avaient moins de 16 ans, avec les contestations qu'on a vu émerger par la suite. Donc, c'est aussi intéressant parce qu'ils ont filtré de manière un peu arbitraire des élèves qui avaient, enfin, des personnes qui avaient plus que 16 ans. Mais moi, effectivement, je pense que poser un interdit physique ne règle pas le problème de fond, qui est le problème de l'attention, de comment est-ce qu'on apprend à toute une génération et à toutes les générations qui viennent à savoir se servir intelligemment et avec componction d'appareils qui génèrent une dépendance très forte. C'est-à-dire qu'on ne leur fait pas un cadeau à ces jeunes de simplement leur interdire de force à se servir d'un écran si après ils s'en servent toute la soirée jusqu'à 3h du matin. La question, c'est comment est-ce que collectivement on apprend à créer des limites, on apprend à créer des temps de déconnexion. Et donc aussi, comment est-ce que les créateurs d'applications, parce que la question va jusque-là, comment est-ce que les créateurs d'applications intègrent cette dimension éthique dans le design des applications pour permettre la déconnexion, pour faciliter, pour valoriser la relation avec un monde qui ne soit pas connecté. C'est toute la réflexion du chercheur Christian Harris, par exemple. Et c'est vrai qu'on a besoin de cet apport-là, de manière académique et au sein des entreprises.
Pour préparer cette émission, j'ai interrogé un proviseur, notamment, qui sont submergés, les proviseurs, à propos de ces questions et qui vivent ça avec beaucoup de difficultés, parce que prendre par exemple le téléphone d'un élève, le garder dans le bureau du proviseur, c'est interdit. Donc il y a tout un tas de problèmes aussi juridiques que peut-être la loi va un peu résoudre. Mais la question que j'aimerais soulever peut-être pour terminer, c'est au fond, on est face à des enfants, ou parfois des adolescents, qui considèrent que le portable, c'est la chose la plus importante de leur vie. Et donc on veut les priver de quelque chose qui est, à tort ou à raison, devenu tellement essentiel que parfois c'est même des drames, des pleurs à partir du moment où on leur enlève un portable.
Je dirais c'est d'autant plus inquiétant si on voit ça, et ça pose d'autant plus la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre que c'est pas la chose la plus importante. La question, c'est de savoir est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est un objet qui est entre le doudou, le fétiche, etc. Je pense que remettre un peu d'interdit, c'est aussi la manière de remettre l'outil à sa juste place, c'est-à-dire un outil, on peut s'en servir et quand on n'en a plus besoin, on s'en débarrasse. Voilà.
Bon, on a essayé de faire le tour de ce sujet, pas facile. On verra comment le débat va se poser à l'Assemblée nationale. Et en tout cas, merci infiniment à Romain Pigenel, ancien conseiller du président François Hollande, cofondateur de Futur.io. Merci à Éliott Lepers, entrepreneur, fondateur de l'ONG, le Mouvement.ng. Et j'ai un cadeau pour vous, pour terminer cette émission.
Gentil.